Alors moi, c'est Pauline Vigée, j'accompagne des projets artistiques, culturels, et j'ai choisi de vous lire aujourd'hui Disgrâce de Coetzee, donc auteur sud-africain, et dans ce roman incroyable et tragique, on retrouve tout le contexte sud-africain, et c'est un roman de la chute. Donc voilà, je vais commencer avec le chapitre 11. C'est mercredi. Il se lève de bonne heure, mais Lucie est déjà levée. Il la trouve en train de regarder les oies sauvages sur le barrage. Comme elles sont belles, dit-elle. Elles reviennent tous les ans, les trois mêmes. J'ai de la chance qu'elles viennent me rendre visite, de la chance d'être celles qu'elles ont choisies. 3. Ça serait peut-être une solution. Lui, Lucie, Mélanie. Ou lui, Mélanie, Soraya. Ils prennent le petit déjeuner ensemble, puis vont promener les deux Dobermann. Tu crois que je pourrais vivre ici, dans ce coin du monde? Demande-t-elle à brûle-pourpoint. Pourquoi? Tu as besoin de remplacer l'homme au chien? Non, ce n'est pas à ça que je pensais. Mais sans doute, tu pourrais trouver un poste à l'université de Rhodes, tu dois connaître des gens, ou à Port-Elizabeth. Je ne pense pas, Lucie, je ne peux plus me recaser. Le scandale me suivra, me collera à la peau. Non, si je reprenais un emploi, il faudrait que ce soit comme un obscur préposé aux écritures dans un bureau, si on emploie encore des gens comme ça, ou comme un employé dans un chenil. Mais si tu veux arrêter le scandale, est-ce que tu ne devrais pas plutôt tenir bon, tenir tête? Est-ce que les ragots ne se répandent pas davantage si on lâche pied, si on se sauve? Lucie avait été une enfant qui parlait peu, effacée, qui l'observait. Mais autant qu'il le savait, ne le jugeait jamais. Et maintenant, à 25 ans, elle commence à prendre ses distances. Les chiens, le jardin, les livres d'astrologie, les vêtements unisexes. Il voit dans chacun de ses choix une déclaration d'indépendance délibérée dans un but précis. Elle s'est détournée des hommes dans le même esprit. Elle s'est fait une vie à elle, elle sort de son ombre. Bien, il l'approuve. C'est ça que tu crois que j'ai fait? Je me suis sauvée? Que j'ai fui le lieu du crime? Enfin, tu t'es retirée. D'un point de vue pratique, ça revient au même, non? Tu ne comprends pas, ma chérie. La défense que tu voudrais me voir opposer n'est plus possible. Basta. Plus de nos jours. Si j'essayais de me défendre, je ne serais pas entendue. Ce n'est pas vrai. Même si tu es, comme tu le dis, un dinosaure pour qui est de la morale, les gens sont curieux d'entendre un dinosaure s'exprimer. Moi, par exemple, je suis curieuse. Quelle est donc ta défense? Explique-toi. Il hésite. Est-ce qu'elle souhaite vraiment l'entendre déballer d'autres détails sur sa vie intime? Ce que j'ai à dire pour ma défense repose sur les droits du désir, dit-il, sur le Dieu qui fait trembler même les petits oiseaux. Il se revoit dans l'appartement de la fille, dans sa chambre, avec la pluie qui tombait à verse dehors, le radiateur dans un coin qui dégageait une odeur de pétrole s'agenouillant au-dessus d'elle, la dépouillant de ses vêtements tandis qu'elle laisse retomber ses bras comme une morte. J'étais au service d'Eros. Voilà ce qu'il veut dire, mais a-t-il front de dire ça? C'est un dieu qui agissait à travers moi. Quelle vanité! Pourtant, ce n'est pas un mensonge, pas tout à fait. Dans cette maudite histoire, il y avait quelque chose de généreux qui cherchait à fleurir. Si seulement il avait su que le temps était si court. Il essayait de reprendre son explication. Quand tu étais petite et que nous habitions encore à Kenilworth, les voisins avaient un chien, un labrador doré. Je ne sais pas si tu te rappelles. Vaguement. C'était un mâle. Dès qu'il y avait une chienne dans le voisinage, il s'excitait. On ne pouvait plus le tenir. Et ses maîtres, avec une régularité digne de Pavlov, le battaient. Ce scénario a continué jusqu'à ce que le pauvre chien ne sache plus comment se comporter. Dès qu'il flairait une chienne, il se mettait à courir en rond dans le jardin, l'oreille basse et la queue entre les jambes. Il poussait des gémissements et essayait de se cacher. Il marque une pause. « Je ne vois pas ce que tu cherches à démontrer, » dit Lucie. « Et en vérité, que cherche-t-il à démontrer ?» Ce spectacle avait un côté ignoble, qui me plongeait dans le désespoir. On peut punir un chien, me semble-t-il, s'il désobéit ou, par exemple, se fait les dents sur une pantoufle. Un chien verra la justice de la punition. Il mange une pantoufle, on le bat. Mais le désir, c'est une autre histoire. Aucun animal ne verra justice à se faire punir pour obéir à ses instincts. Alors, il faut permettre aux mâles d'obéir à leurs instincts sans les contenir? C'est ça la morale ? Non, ce n'est pas ça la morale. Ce qu'il y avait d'ignoble dans le spectacle de Kenilworth, c'est que le pauvre chien s'était mis à haïr sa propre nature. Il n'était plus nécessaire de le battre. Il était prêt à se punir lui-même. À ce stade, il aurait mieux valu l'abattre ou le faire couper. Peut-être, mais au fond, je crois qu'il aurait préféré qu'on l'abatte. Il aurait peut-être préféré cela à ce qu'on lui offrait, d'une part renier sa nature, d'autre part passer le restant de ses jours à tourner dans le living, à soupirer et à flairer le chat, et à faire du lard. Tu as toujours pensé comme cela, David ? Non, pas toujours. Quelquefois, j'ai eu des sentiments tout à fait opposés. J'ai pensé que le désir est un fardeau dont on aimerait se passer. Je dois dire, Lucie, que je serais plutôt de cet avis. Il attend qu'elle continue, elle n'en fait rien. De toute façon, dit-elle, pour revenir à ce que nous disions, on t'a mis dehors, tes collègues sont en sécurité, ils peuvent respirer à l'aise, de nouveau, pendant que le bouc émissaire erre dans le désert. C'est une affirmation ? Une question ? Croit-elle qu'il n'est rien d'autre qu'un bouc émissaire ? Je ne pense pas que le concept du bouc émissaire soit celui qui convienne le mieux, dit-il prudemment. La pratique du bouc émissaire a marché tant qu'elle avait le soutien du pouvoir religieux. On mettait les péchés de la cité sur le dos du bouc. On le mettait hors les murs et la cité se trouvait purifiée. Cela marchait parce que chacun savait décoder le rite, y compris les dieux. Et puis les dieux sont morts et tout d'un coup il a fallu purifier la cité sans l'aide des dieux. Il fallait des actes, pas du symbolisme. C'est alors qu'est né le censeur, au sens que les Romains donnaient du terme. Le mot d'ordre vient alors de la surveillance de chacun par tous. La purge a remplacé la purgation. Il se laisse emporter par le sujet, lui fait un cours. De toute façon, conclut-il, ayant fait mes adieux à la ville, qu'est-ce que je fais dans le désert ? Je soigne les chiens, je me retrouve le bras droit d'une femme qui se spécialise dans la stérilisation et l'euthanasie. Lucie rit. Bev, tu penses que Bev fait partie du système répressif ? Mais Bev, tu l'impressionnes, tu es professeur. Elle n'avait jamais vu de professeur comme on les faisait autrefois. Elle a peur de faire trois fautes de grammaire devant toi. Trois hommes s'avancent vers eux, sur le chemin, ou plutôt deux hommes et un jeune garçon. Ils marchent vite, à grandes enjambées, comme des paysans. Le chien que Lucie tient en laisse ralentit, hérisse le poil.